Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi pile, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Les HLM à Nice, ça se mérite et ceux qui s'y comportent mal peuvent être expulsés. C'est ce qui va arriver à une femme et à son fils de 19 ans, condamnés à de la prison ferme pour trafic de drogue. Je voulais qu'on revienne sur cette histoire dans Europe Midi et qu'on soit en direct avec le responsable des HLM de Nice. Il sera avec nous dans un instant. Dans Europe midi également, 48 heures avant le procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre. Vous allez entendre un témoignage exceptionnel recueilli par Marion Dubreuil. Témoignage de Christophe Molmy, policier, patron de la BRI, le soir du 13 novembre 2015. Il est entré dans le Bataclan. Alors que les terroristes islamistes étaient encore sur place, il n'a évidemment rien oublié de cette nuit de l'horreur. Si vous avez un projet immobilier, restez bien avec nous dans Europe Midi. On vous dira ce qui est le plus intéressant entre louer ou acheter en fonction de la ville où vous vivez. Et puis on ira également à Munich. J'appellerai Aurélien Fleureau qui a pu s'asseoir dans la toute nouvelle Mégane Renault électrique. Il nous dira s'il a aimé ou pas. On parlera également des autres nouveautés.
Europe 1.
Pas de logements sociaux pour les ennemis de la République. C'est la règle qui prévaut désormais à Nice. Quand on se comporte mal dans son appartement HLM, on risque d'être expulsé. Avant d'aller à Nice, retrouver Anthony Boré qui s'occupe des HLM à Nice. Marion Gauthier, expliquez-nous. Il y a une femme qui va être expulsée à cause du comportement de son fils. Hein.
Oui, et c'est une première. Le tribunal a autorisé l'expulsion donc, d'un jeune homme de 19 ans et de sa mère chez qui il habite. Lui a été condamné à 20 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Elle doit plier bagages et payer une amende de 500 euros. Résultat de plusieurs mois d'une politique de fermeté contre les nuisances dans les logements collectifs, se réjouit la mairie de Nice. En avril dernier, une convention est votée qui fait collaborer la préfecture des Alpes-Maritimes, le parquet et le bailleur social Côte d'Azur Habitat. Celui-ci peut désormais être informé de la condamnation pénale d'un locataire ou d'une personne vivant à son adresse. Et c'est en s'appuyant sur cette convention que le principal bailleur de Nice demande l'expulsion du jeune homme condamné et de sa mère, et l'obtient mi-juillet. Injustice, réagit la Fondation Abbé Pierre, aberrant qu'un logement social puisse être vidé, que ses occupants payent pour leurs proches. L'organisation dénonce une punition collective. D'autres décisions similaires pourraient suivre, cependant, contre des locataires qui auraient commis délits ou incivilités. Plus de 70 procédures sont en cours d'examen.
Marion Gauthier, merci beaucoup Marion. Anthony Boré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes premier adjoint Les Républicains au maire de Nice et président de l'Office Côte d'Azur Habitat. Merci d'être avec nous. C'est une information qui fait beaucoup réagir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on rend la vie de ses voisins impossible dans des HLM de Nice, on se fait expulser ? Est-ce que c'est vraiment la règle ?
Alors, je nuancerai un peu les choses. D'abord, c'est vrai que j'ai souhaité marquer un principe de fermeté et proposer des sanctions qui sont graduées, d'ailleurs, sur des nuisances sonores, sur des incivilités, mais aussi sur des actes de délinquance ou du trafic de drogue. Et en l'occurrence, nous sommes face à une famille qui, depuis 2018, est connue pour des faits graves. Je pense à des dégradations, je pense à de l'occupation de halls d'immeubles. Et puis, plus récemment, sur du trafic de stupéfiants, sur le fils de la locataire qui a été condamné à 19 mois de prison. Et j'ai considéré que tous ces faits conjugués étaient suffisamment graves pour demander aux tribunaux l'expulsion. Et les juges me l'ont accordé. C'est dire si nous avons su prouver ces éléments. Je considère que mes locataires qui vivent dans des conditions modestes, dans des quartiers parfois difficiles, ont le droit à la sécurité, à la tranquillité. Et je souhaitais qu'ils puissent bénéficier de cette jouissance paisible. Et dans le même temps, dire aux 16 000 locataires qui sont en attente d'un logement dans la ville de Nice. C'est conséquent, 16 000, et qui attendent parfois des années, que, bien entendu, je prends en compte la détresse sociale, mais je prends aussi la question du comportement de mes locataires en compte.
Ce que vous nous dites, c'est que cette expulsion dont on parle, c'est après 3 ans d'incivilité, hein, c'est pas au bout d'un mois.
C'est après 3 ans de procédure, c'est après de multiples mises en demeure de la famille, c'est après des tentatives aussi de dialogue avec cette famille, qui n'a jamais su saisir les mains tendues. Évidemment, nous sommes là disposés à accompagner au titre de la ville, au titre du bailleur, toutes les familles qui ont besoin d'un soutien à la parentalité. Mais en revanche, je ne veux rien céder face aux ennemis de la République qui terrorisent des familles entières, qui, pour une grande majorité, veulent vivre paisiblement de leur travail. Si on veut assurer de la mixité sociale dans ces quartiers, il est évident qu'il faut faire en sorte que des ménages veuillent y vivre. Et pour pouvoir y vivre, il ne faut pas qu'il y ait des dealers en bas des immeubles. Et c'est toute l'action que nous avons à mener avec les services de l'État.
Ça veut dire que les voisins ont subi pendant 3 ans ces incivilités et ces comportements. Qu'est-ce que vous dites, on en parlait à l'instant avec Marion Gauthier, qu'est-ce que vous dites à, par exemple, la Fondation Abbé Pierre qui parle d'injustice, qui parle de double peine ?
Je réponds d'abord que si injustice il y a, c'est les tribunaux qui l'ont prononcé. C'est la justice elle-même. Je veux dire aussi que je me tiens à la disposition de chaque locataire qui aurait envie de mesures d'accompagnement. Je sais qu'il est difficile d'élever des enfants. Je sais qu'il est en particulier plus difficile d'élever des enfants dans ce type de quartier. Mais je crois au principe de responsabilité. Être parent, c'est un devoir. Ça exige beaucoup d'engagement. Ça exige beaucoup d'attention, beaucoup de surveillance. Et je fais signer d'ailleurs à chaque locataire, lorsqu'il prend un logement, un règlement intérieur dans lequel j'indique que toutes les personnes qui vivent sous son toit sont sous sa surveillance. Et évidemment, ça nécessite beaucoup d'engagement de la part du locataire et de la part des parents. Et j'entends que chacun assume ce principe de responsabilité pour que nous puissions vivre mieux dans ces quartiers. Et le trafic de drogue est insupportable et c'est un fléau dans toutes les grandes villes de France contre lequel il faut lutter. Je crois que les bailleurs sociaux ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine.
Merci beaucoup Anthony Boré, premier adjoint Les Républicains au maire de Nice, président de l'Office Côte d'Azur Habitat, d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Écoutez bien, si vous devez faire des courses dans les jours qui viennent, le nombre de centres commerciaux à l'entrée desquels il faut présenter un pass sanitaire va passer de 178 à, j'allais dire, seulement 64. Plus que 64 centres commerciaux avec contrôle des passes à l'entrée. Bonjour Élise Nangeant.
Bonjour.
Pourquoi cette décision de Bruno Le Maire ? C'est pas uniquement pour nous faciliter la vie.
Et non, c'est une décision prise sur la base de critères sanitaires. La règle est simple, le pass est obligatoire à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m² dans les département où le taux d'incidence est supérieur à 200. Jusqu'ici, 178 centres étaient concernés dans 27 départements. Mais l'épidémie de Covid recule depuis quelques jours. 18 départements seront donc libérés de cette contrainte dès mercredi, notamment la quasi-totalité de l'Île-de-France, ce qui laisse uniquement 64 centres, vous le disiez, avec passe sanitaire obligatoire. Et ça devrait encore diminuer dans les prochaines semaines. En métropole, il n'y a plus que 9 départements avec un taux d'incidence supérieur à 200, dont l'intégralité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Voilà, ça va quand même être plus simple. D'ailleurs, où en est-on de la quatrième vague ? La tendance semble baissière pour le moment. Écoutez ce que nous disait ce matin Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il était l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale.
On va vivre avec le virus, il va rejoindre la bande des 4 autres coronavirus avec lesquels on vit déjà depuis des décennies, sinon des siècles, et on vivra avec lui.
Sur l'immunité collective, vous aviez aussi vous-même, professeur Éric Combe, défendu cette immunité grâce au vaccin. Elle ne marche pas, l'immunité collective. On s'en éloigne aujourd'hui.
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense au contraire qu'on s'en rapproche. Il faut être serein. On va finir par s'immuniser collectivement. Alors, à titre individuel, cette immunité, elle sera soit naturelle, soit vaccinale. Elles ne sont pas tout à fait de la même qualité. Malheureusement, et l'immunité naturelle, par exemple avec le variant Alpha, ne vous protège pas forcément du variant Delta. C'est un peu pareil avec la vaccination. Elle est très efficace sur le variant Alpha, elle est un peu moins efficace sur le variant Delta. Donc je pense qu'il y aura des on se réinfectera à minima avec des formes bénignes, voire inapparentes. Et puis on arrivera à une immunité une fois qu'on aura rencontré le virus sous forme de ces différents variants quelquefois.
12h38, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, un témoignage exceptionnel qui nous ramènera dans la tragique nuit du 13 au 14 novembre 2015, le soir des attentats. Vous entendrez le patron de la BRI de l'époque, les policiers de la BRI qui sont rentrés dans le Bataclan. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h41, c'est un procès comme la France n'en a jamais connu qui va s'ouvrir mercredi. Le procès des islamistes qui ont participé à différents niveaux aux attentats du 13 novembre 2015. Le Stade de France, les terrasses parisiennes et le Bataclan. Au Bataclan, ce sont les hommes de la BRI qui sont intervenus. Christophe Molmy était leur patron à l'époque. Il se souvient de tout, évidemment. Lors de cette nuit d'horreur, Marion Dubreuil, du service police-justice d'Europe 1, lui a demandé quelle était la première image qu'il avait vu en rentrant dans la salle de concert.
La première image, c'est une salle, la fosse qui est remplie de corps. En fait, je ne sais pas combien, mais je pense qu'il y avait des centaines hein, qui étaient par terre. Il n'y avait pas de bruit. On entendait quelques personnes gémir, mais personne ne bougeait. Et on le comprendra après, parce que pendant un long temps, les personnes qui essayaient de se lever pour s'enfuir, ou dont le téléphone sonnait, ou qui appelaient à l'aide, se faisaient tirer dessus depuis les balcons par les terroristes. Il y a cette odeur qui prend la gorge de sang, hein, et de poudre aussi, hein, parce qu'il y a eu de très nombreux tirs. Et ensuite, donc, deux équipes de la BRI montent à l'étage. On continue à progresser dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait un placard, on trouvait 3-4 personnes bloquées dedans. Dans les toilettes, moi, j'ai vu 6 personnes entassées. On a vu des personnes descendre des faux plafonds. Enfin, il y en avait partout, quoi. Avec, encore une fois, cette difficulté à gérer, c'est que vous avez des personnes qui sont très désireuses de sortir tout de suite, et je les comprends, mais elles foncent un peu vers nous, donc ça peut être une menace, parce qu'on ne sait pas qui elles sont. Hein. Donc il faut les calmer, il faut leur demander de lever leurs vêtements. Et à 23h15 précise, le premier de la colonne arrive devant une porte, et derrière cette porte se trouvent des otages qui hurlent immédiatement, n'avancez pas, n'ouvrez pas la porte. Ils nous expliquent qu'ils sont une quinzaine environ, sous la menace de deux terroristes armés de Kalachnikov et de gilets explosifs. Dès le premier contact, en fait, qui est un peu long, le négociateur m'appelle et me dit qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas comme ça. Bon, la première partie de l'assaut, ça a été un moment assez intense, parce que finalement, on a subi les tirs des terroristes, parce qu'il n'était pas question de tirer à force ouverte alors que des otages étaient au milieu. Donc les gars ont été parfaits, ils ont été courageux, ils ont encaissé les tirs. Et en avançant, les otages sont passés derrière le bouclier, ils sont tirés par la colonne jusqu'à l'arrière de la colonne où une seconde colonne les prend en charge. Là, on est dans une phase plus active parce que on pense, à tort d'ailleurs, parce qu'il reste un otage qui est au sol, on pense que tous les otages sont sortis. Là, les gars tirent un peu plus, jettent des grenades. En ce faisant, le premier de colonne bute sur une marche, il doit lâcher le bouclier qui tombe devant lui. Qui lui échappe. Bon, il se retrouve sans protection, hein, mais il se démonte pas, il sort son arme de poing et il continue à avancer avec ses collègues derrière. Les collègues voient une ombre revenir vers eux avec une arme à la main, donc ils comprennent que c'est un des terroristes. Le premier de colonne tire dessus, il le blesse, le terroriste recule, il tombe au sol et seulement là se fait sauter. Alors, le deuxième terroriste est sonné, est blasté, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le souffle le projette contre le mur, il est de dos au mur. Il glisse au sol, il se retrouve assis, il est groggy, et quand la colonne continue à avancer et le découvre, il est en train de chercher son détonateur. Et là, il est neutralisé en état de légitime défense. L'assaut est fini. Ça a duré un peu plus de 2 minutes à peine. Non, mais personne n'a vu ça en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. 90 corps, c'est inimaginable. C'est indescriptible. Donc, non, on n'était pas préparé à ça, mais personne n'est préparé à ça. On a tous été marqués. Moi, j'ai été marqué. On est nécessairement marqué. On l'avait déjà été par l'hypercacher. J'avais vu Charlie Hebdo, c'était très marquant aussi, mais bon, là, c'est hors sol, donc on a tous été marqués, il y a des choses qui nous reviennent, et ça fait partie de notre histoire maintenant.
Quel courage que celui de ces hommes, de la BRI en l'occurrence, mais de tous les policiers, ce soir-là, et d'autres soirs bien sûr, mais ce soir-là particulièrement. Demain, je vous proposerai un autre témoignage recueilli également par le service police-justice d'Europe 1. Et puis mercredi, évidemment, on ira au palais de justice sur l'île de la Cité où se déroulera ce procès historique.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
On change totalement de sujet. Est-ce que vous avez un projet immobilier, comme disent les banquiers? Vous savez, ils vous demandent, est-ce que vous avez un projet immobilier? Plus simplement, est-ce que vous envisagez de changer d'appartement ou de maison? Meilleurtaux.com vient de réaliser une étude sur le match entre la location et l'achat. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer? Bonjour Maëlle Bernier.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Meilleurtaux.com. Déjà, expliquez-nous, comment est-ce que vous avez travaillé? Quelle a été votre méthode de calcul?
Alors en fait, l'idée c'est évidemment de faire un comparatif, donc on prend d'un côté les prix au mètre carré à l'achat, la taxe foncière, les charges de copro, et on part du principe que vous avez 10% d'apport qui vont donc être injectés dans ce projet immobilier. En face, on met le prix des loyers, évidemment, pour la même surface, et on considère que les 10% que vous n'allez pas mettre dans l'achat, vous allez les placer sur un produit d'épargne. Et en fait, on rentre toutes ces données et à un moment donné, les courbes se croisent. Et en fait, quand les courbes se croisent, ça veut dire que l'allocation commence à coûter plus cher que l'achat.
Alors, où est-ce que c'est le plus intéressant d'acheter en France?
Alors, Alors, oui, effectivement, alors, il y a des grosses différences. Aujourd'hui, les villes qui où c'est vraiment, il faut acheter très très vite, c'est Perpignan, Le Mans, Nîmes, Le Havre, Limoges, Grenoble. Enfin, voilà, il y en a une bonne vingtaine où vous êtes sur une durée inférieure à 2 ans.
D'accord.
De détention minimum.
Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, c'est amorti.
Exactement. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que si vous restez locataire plus de 2 ans, vous commencez à perdre de l'argent.
D'accord. Alors, inversement, où est-ce que c'est pas intéressant d'acheter ? Ou alors, où est-ce que c'est intéressant d'acheter, mais à très long terme ?
C'est ça. Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des villes où vous allez être obligé de garder le bien plus longtemps parce que sinon, vous allez perdre un peu d'argent. D'autant qu'on tient compte quand même, hein, je précise, quand même d'une éventuelle plus-value. On fait bouger un peu les prix au fur et à mesure des années. Donc, ce n'est pas totalement le statu quo. Donc, évidemment, sans surprise, les villes où les prix de l'immobilier sont les plus chers. Alors, vous avez Paris. Paris, évidemment, mais vous avez Lyon aussi. Alors, pourquoi Lyon ? Bah, parce que Lyon, vous avez des prix à l'achat qui ont bondi depuis le Covid notamment. Plus de 5 500 euros du mètre carré. Et vous avez des prix à la location qui n'ont pas bougé et qui sont finalement beaucoup moins élevés. Donc, en gros, à surface équivalente, la location vous coûte beaucoup moins cher. Et en fait, c'est vraiment ce delta et ce croisement de courbes et de coûts qui fait que, bah, par exemple, à Lyon, si on prend l'exemple, parce que c'est la ville la plus mal classée, si je puis dire, il faut garder son bien 28 ans et on est sur un bien de 70 mètres carrés pour ne plus perdre d'argent.
Effectivement. Merci beaucoup Maëlle Bernier. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Europe 1. Dans Europe Midi, pardon. Dans un instant, on va aller à Munich. On va aller à Munich. Pourquoi ? Parce qu'il y a le salon de l'auto de Munich. Et Aurélien Fleureau, l'envoyé spécial d'Europe 1, s'est installé dans la toute nouvelle Renault Mégane électrique. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h51, des tapis rouges, des vedettes, des photographes. Et pourtant, ce n'est pas le Festival de Cannes, c'est le salon de l'auto de Munich. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 à Munich, l'une des vedettes, c'est la Mégane électrique. Alors, vous avez pu vous asseoir dedans, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous.
Bah, c'est vrai que c'est la grande annonce hein, côté constructeur français ici à Munich. Cette nouvelle Mégane 100% électrique, cela reste une berline compacte, familiale. En revanche, c'est la première voiture qui va incarner la nouvelle stratégie de Renault. Je me suis assis au volant hein, tout à l'heure. Ce qui frappe d'abord, c'est la montée en gamme sur le plan technologique. Un immense écran tactile 24 pouces. Première voiture avec tous les services connectés de Google intégrés. Commercialisation prévue en mars prochain. Un lancement stratégique et tout a été fait pour séduire les automobilistes. C'est ce qu'explique Bruno Vanel, le directeur produit de Renault.
Le but a été de redonner à la fois ce plaisir, beaucoup d'émotion dans le design et aussi beaucoup de plaisir de conduite qui se rapproche presque de celle d'un kart et de le faire grâce à tout ce que nous a apporté le fait d'avoir électrifié l'ensemble de la plateforme dès le départ, de l'avoir pensé électrique. Donc ce qui nous permet d'avoir ce plaisir avec une voiture qui est collée au sol, qui a une direction très spécifique, mais aussi une voiture qui a beaucoup d'habitabilité.
Un grand coffre donc, de l'espace devant également, ça s'est permis par des batteries qui prennent de moins en moins de place, alors que l'autonomie, elle augmente, 470 km maximum, mais 300 si vous roulez sur autoroute. Temps de charge annoncé, 30 minutes pour récupérer 300 km.
Alors Aurélien, voilà pour cette Mégane électrique. Du côté des étrangères, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil ?
Eh bien, nous sommes en Allemagne, donc les grands constructeurs maison ont fait leur show ce matin, à commencer par BMW, dont le siège est ici, à Munich, qui a présenté un SUV électrique, l'iX, un autre à l'hydrogène, iX5, et puis surtout un concept de ce que sera la voiture en 2040, la e-vision circulaire, alors avec un impressionnant tableau de bord futuriste en forme de V imprimé en 3D, et puis, vraie particularité également, elle sera entièrement conçue à base de matériaux recyclés et recyclables. Et puis je retiens aussi du côté de Volkswagen le concept ID Life, une petite voiture électrique rectangulaire pensée pour les jeunes. Ce sera clairement une concurrente directe de la future R5 100% électrique dont Renault va montrer le nouveau prototype demain.
Alors la R5 électrique, ça on en reparlera demain. Si je veux me déplacer en trottinette, Aurélien, vous avez quelque chose pour moi au salon de Munich ou pas ?
C'est possible Romain, ce salon s'appelle l'IAA Mobility. Pour ce premier rendez-vous européen hein, depuis le début de la pandémie, les mobilités douces sont présentes. La mobilité propre est au cœur de toutes les nouveautés. Il y a donc effectivement deux stands entièrement dédié au vélo, aux trottinettes et même aux gyropodes. Hein, entre votre bureau et le studio, ça pourra vous servir éventuellement, Romain.
Mais voilà, il faudra que je m'entraîne. Merci beaucoup, Aurélien. C'est pas pour demain. Allez, Aurélien Fleurot, en direct du Salon de l'Auto de Munich. Si vous habitez dans l'Ouest, vous l'avez peut-être vu, une magnifique météorite qui est tombée dans l'atmosphère aux alentours de 23h hier soir. C'est toujours aussi impressionnant, c'est magnifique. Océane Théarve a joint Amandine qui habite Brest.
Je fermais mes volets vu que j'étais pour aller me coucher et d'un coup, le ciel qui était un peu orangé de base à cause des lumières est devenu d'un coup tout blanc, comme si on avait plein d'éclairs d'un coup en même temps. En quelques secondes, le ciel est devenu vraiment comme un plein jour. C'est resté quelques secondes comme ça et après, bah, le ciel est redevenu exactement comme avant. C'était parti aussi que c'est arrivé, quoi. Enfin, du coup, c'était flippant. Parce que du coup, on pourrait croire, sur le coup, que c'est un peu comme la fin du monde, quoi. Bon, ok, il s'est rien passé, du coup, dans Brest même. On a juste vu la lumière ou entendu des bruits. Mais j'avoue que de voir ça, c'était quand même bien stylé, car c'était très unique comme moment. Du coup, j'aimerais bien revoir ça un jour, et pourquoi pas prendre en photo si j'arrive à capturer le moment, quoi.
Voilà, c'était quand même bien stylé, hein, nous a dit Amandine. Voilà, en traduction, c'est magnifique, quoi, c'est formidable. Effectivement, voilà, c'est comme ça que parlent les ados, c'est stylé. 12h56, ce qui est stylé également, c'est la météo. Anissa Haddadi, il va faire chaud aujourd'hui, hein.
Oui, il va même faire encore plus chaud qu'hier avec 25 degrés attendus à Saint-Brieuc cet après-midi, 26 à Lille, 27 pour Nice et Perpignan, 28 degrés à Belfort et Caen, 30 degrés à Rodez, 29 pour Paris et Marseille, 31 à Lyon, 34 degrés pour Bordeaux et 36 degrés à Mont-de-Marsan. Alors il faut savoir que ça, ce sont les températures prévues par Météo France, mais il faut savoir que le ressenti sera bien plus élevé. En ressenti, on pourra avoir jusqu'à 38 degrés à Brest, par exemple, ou encore 41 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz. Avec le taux d'humidité, il fera lourd aujourd'hui et donc très chaud. Le soleil va briller sur l'ensemble du pays cet après-midi. Un léger voile nuageux entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Et puis le développement de quelques orages en montagne sur les reliefs corses, les reliefs alpins et l'est des Pyrénées. Rien d'autre à signaler, les températures vont continuer de grimper encore demain et après-demain, avant l'arrivée de nouveaux orages.
Merci Anissa, 12h57, très bel après-midi sur Europe 1. Tout de suite, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil.